on a été affecté à diverses tâches. Moi, je me suis retrouvé au bureau du jazz pour une raison simple. C'est qu'il y avait beaucoup de bandes à porter et qu'il fallait un garçon. Alors effectivement, j'ai porté beaucoup, beaucoup de boîtes. C'était des boîtes en métal à l'époque. Hein. Et alors, moi, j'étais un peu passionné par le jazz, donc tout de suite, les rapports avec l'équipe du jazz, qui s'appelait le bureau du jazz à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait un côté un peu administratif, peut-être un peu orwellien du jazz, qui est complètement antinomique. Il y avait une équipe avec Lucien Malson, André Francis, Alain Gerbert, enfin des tas de gens, des autorités du jazz, de Jazz Mag et tout ça. Et bon, mais petit à petit, enfin rapidement, on a sympathisé, puisque moi j'avais beaucoup de goût, j'avais pas leur culture, mais j'avais beaucoup de goût pour le jazz. Et j'ai fait donc été employé à faire des concerts. Ensuite, j'ai été emmené faire des festivals où je travaillais avec les techniciens pour la pose des micros qui m'apprenaient des choses parce que en tant qu'aimant le jazz, je disais aux techniciens, mais tu crois pas que le saxo est trop fort là? Et tout de suite, il y avait une espèce de reconnaissance mutuelle, une collaboration avec des gens comme Jean Doloron, avec des gens comme ça. Et puis, donc tout ça fonctionnait très très bien. Et puis, on était en stage probatoire là. Et quand l'approbation a été terminée, l'ORTF a explosé. Et on nous a mis dehors. Et on a fait des mouvements sociaux, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a fait des grèves, quoi, des grèves assez dures. Et ils ont décidé de reprendre les gens qui avaient des enfants. Donc j'étais repris. On m'a remis à mon poste officiel, qui était assistant de réalisateur de dramatique. Où l'ennui est arrivé par vagues successives et la mer est montée très vite, quoi. Grâce aux techniciens, j'ai appris beaucoup de choses, encore sur les micros, mais pas grand-chose sur le texte. C'est-à-dire, toutes les questions de contenu m'ont été interdites, puisque dans les dramatiques, il y a un réalisateur, bon, qui est souvent un homme âgé. Quand on a 25 ans, il est âgé. Même s'il a 50, 40 ans, c'est un vieux, quoi. Et surtout quand on est de la génération de 68. Et puis, il y a un auteur. Et je peux dire que, j'ai pas travaillé sur cette émission, mais j'ai assisté physiquement, je suis allé voir les enregistrements d'India Song avec Marguerite Duras et Georges Perrault. Marguerite Duras, c'est une grande écrivain, il n'y a aucun doute. En matière de radio, c'est un peu autre chose, quoi. Néanmoins, Georges Perrault, qui était une grande autorité parmi les réalisateurs classiques, n'était qu'un enfant par rapport à elle, puisqu'elle lui disait, c'est ça qu'il faut faire, et puis c'est tout, quoi. Elle dirigeait tout. Et lui, il disait, oui, c'est bien. Sa réalisation consistait à ça. Et bon, je me suis dit, c'est vraiment pas le métier que je veux faire. Et puis, j'ai dû faire, la première fois que j'ai fait quelque chose qui m'a sorti de la radio, c'est que j'ai remplacé quelqu'un pour une émission particulière dans les chemins de la connaissance, à l'époque dirigée par Claude Métra. Et c'était quelque chose qui avait rapport aux amisdates, dont on commençait à parler. Et j'étais allé avec un jeune producteur, jeune par rapport à moi, hein, donc il devait avoir 30 ans, quoi. Et on est allé accueillir un chanteur de la dissidence soviétique, qui s'appelait Galitch. Et on a fait une semaine de la connaissance extrêmement élaborée, parce que ce monsieur connaissait parfaitement son sujet, et on a voulu faire quelque chose de convaincant. Alors on est sorti du cadre formel des chemins de la connaissance, qui étaient des émissions de transmission du savoir assez simples. En gros, c'était deux chaises, un micro, quoi. Modèle qui a perduré ensuite, hein, qui s'est généralisé. Mais donc là, on est sorti, on a fait des reportages, on a fait des traductions. Et là, j'ai commencé à utiliser la matière sonore, la matière intellectuelle, un peu comme ce que j'avais appris à l'INA. Et il se trouve que Louis d'André, La France Musique, est arrivé. Et qu'il a voulu faire une autre radio, une autre France Musique. Il a voulu empêcher que le silence après Mozart soit encore du Mozart. Donc j'ai été appelé par Philippe Calloni, qui m'a dit « Est-ce que tu veux bosser avec moi ?» J'ai dit « Oui ». Et plus exactement, c'est par Josette Collin, parce que je voudrais vraiment parler de Josette. Parce que c'était un peu... On a été ensemble très longtemps sur le plan professionnel. On disait les roues combalusiers, hein, de la radio, ou les Villeroy et Bloch quand c'était désagréable. Donc Josette, c'était quelqu'un qui avait passé le concours avec moi. On s'était repéré dans le métro en allant à l'INA la première fois d'ailleurs. elle était musicologue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lisait les partitions d'orchestre en tournant les pages, quoi, et puis qui construisait ses synthétiseurs. Elle faisait la soudure et toutes ces choses-là. Donc, elle avait une telle personnalité qu'elle a été repérée tout de suite par Louis Dandrel et Calonil l'a prise. Et elle a dit, j'aimerais bien être comme avoir un... Parce que c'était des émissions extrêmement difficiles. C'était 7h du matin tous les jours. L'antenne ouvrait à 7h. Plus les reportages étaient faits le soir. Enfin bon, on ne pouvait pas faire ça tout seul dans le cadre du salariat. Et donc, elle m'a fait venir et je suis resté avec Philippe Calonil pendant 3 ans où j'ai appris... Bah, par exemple, à traiter l'histoire de la lutherie française en 5 fois 50 secondes. C'est-à-dire qu'avec Calonil, j'ai appris à monter. J'ai appris à monter journaliste sec, quoi. Avec néanmoins des collants qui ne s'entendent pas. Parce que lui, il avait quand même une sorte d'exigence sonore. On n'était jamais d'accord, parce que en tant que gauchiste intégriste de la radio, ça n'allait jamais pour moi. Mais lui, ça allait. Mais il avait le sens des choses. Et il savait que... À 7h du matin, on ne peut pas développer un sujet pendant 10 minutes, quoi. Surtout sur une chaîne musicale où la parole est quand même considérée comme un peu superfétatoire. Hein. Les gens mettent de la musique pour se réveiller. C'est vrai qu'à l'époque, France Musique, c'était la chaîne des patrons. Le CNPF, les patrons écoutaient France Musique. Je me rappelle de François Sérac, qui était le patron du CNPF, qui était un auditeur régulier qui nous téléphonait de temps en temps. Et qui donnait sa critique. Et je me rappelle aussi de Henri Krasucki, grand spécialiste de l'opéra. Et il appelait en disant « Mais non, là, vous vous trompez, le contre-ténor, c'est pas un tel, mais c'est un tel. » Alors là... Et c'était assez fréquent. Donc là, sur le plan de la radio proprement dit, j'ai appris la musique classique. Je connaissais rien à la musique classique. Mais rien du tout. Ben, si, un petit peu Beethoven, un petit peu Mozart, comme tout le monde, mais rien. Là, j'ai appris des choses. J'ai appris aussi comment vit un musicien de sa musique. Pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan personnel. J'ai vu que c'était des gens à fleur de peau, pour la plupart. C'est extrême, c'est un milieu qui... Ça m'a appris à respecter celui qui fait quelque chose. Et notamment les musiciens classiques pour lesquels j'ai une grande admiration, et beaucoup moins pour le jazz. Parce que le jazz, il y a quelque chose de différent. Le jazz, à l'époque, quand je faisais du jazz l'année d'avant... On était en pleine période de free jazz. Et les musiciens de jazz étaient souvent des Noirs américains extrêmement politisés. Et tout ce qui venait de nous, radio officielle, radio d'État, etc., blanche, pour le dire aussi, d'un pays pour eux ex-colonialiste, on était traités par les musiciens, mais comme mal. Et en plus, on les payait très mal. On ne leur donnait rien, quoi. Le contrebassiste, il avait un problème parce qu'il fallait prendre un taxi plus cher à cause de la contrebasse. Et il demandait des remboursements de frais que l'administration lui refusait. Donc ça créait des ambiances de concert free jazz vraiment horribles. Par contre, avec d'autres musiciens, ça se passait très bien. Hein, alors qu'en musique classique, c'est très différent. Et avec eux, il fallait apprendre à être très, très respectueux, quoi, de leurs difficultés. Pas faire comme certains techniciens faisaient, Coco, mets-toi là, ça... Non, non, mets-toi là, joue plus fort. Non, le musicien de classique, il joue pas plus fort. Il joue ce qu'il doit jouer. Et là, ça a inversé un petit peu ma connaissance.